Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, merci de votre confiance. 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. Vous êtes nombreux au standard, comme tous les vendredis, des réactions sur la Guinée et la candidature d'Alpha Condé à un troisième mandat. L'opposition ivoirienne qui se mobilise pour essayer de faire barrage à la candidature d'Alassane Ouattara. Des réactions également sur le Cameroun, où l'opposition n'a pas réussi à mobiliser ses partisans lors de la journée de manifestation de mardi. Il faut dire qu'un important dispositif policier avait été déployé. Vous témoignez également sur les conséquences des inondations qui ont frappé ces dernières semaines l'Afrique de l'Ouest. On a des réactions notamment du Sénégal et du Niger. J'espère qu'on aura le temps de vous entendre évidemment. Mais d'abord, le sujet qui suscite le plus de réactions, c'est cette journée d'investiture au Mali. Le nouveau président par intérim, l'officier à la retraite Bandao, va prêter serment ce vendredi, tout comme le nouveau vice-président, le colonel Assimi Goïta, chef de la junte. Bonjour, shérif.
Bonjour, Chirac.
Vous êtes à Bamako et comme tous les Maliens, vous attendez évidemment cette prestation de serment, ces prestations de serment, hein, puisque pour la première fois dans l'histoire du Mali, un président et un vice-président vont prêter serment. Vous êtes plutôt convaincu par le profil du président de la transition. Vous disiez au standard, Bandao est l'homme providentiel.
Oui, M. Bandao est l'homme providentiel et tout le monde est unanime sur l'intégrité de cet ancien militaire qui a toujours été un homme droit dans ses bottes et dès que sa ligne de conduite n'est pas respectée, il le fait savoir. Donc nous pensons et nous espérons vraiment que ce monsieur va tirer le Mali de ce gouffre et aller vers une transition qui va nous amener vers des élections libres et transparentes.
Et le fait
tous les défis qui sont là.
Et le fait qu'il ait une double casquette, puisqu'il est civil aujourd'hui, militaire à la retraite, mais enfin il a été militaire.
Oui, mais il est un militaire à la retraite, n'a pas de double casquette. Maintenant, c'est un civil, donc le CNSP a exécuté aux exigences de la CEDEAO, à savoir un militaire civil et un PM que nous aurons perdu bientôt. Donc, il n'a pas de double casquette. C'est un civil, juridiquement parlé.
Et justement, la CEDEAO qui exigeait un président et un premier ministre civil, on verra peut-être dans la journée si ce premier ministre tant attendu sera nommé. Mais concernant le président civil, certes, il est civil aujourd'hui, il a été militaire, mais est-ce que ce n'est pas un moyen pour la junte, et donc pour les militaires, de conserver tout de même la main tout au long de cette période transitoire? Le fait d'avoir nommé un ancien militaire.
Bon, je pense que le CNSP a choisi M. Ndao en conséquence de tout ce qu'il sait, parce que nous savons tous que c'est un homme qui est intègre. Mais maintenant, le CNSP est aussi dans son droit de choisir quelqu'un de confiance, parce que nous savons tous que les Maliens n'ont plus confiance à la classe politique. Donc, il fallait un monsieur de ce profil qui peut vraiment avoir l'espoir de tout un peuple pour aller vers les défis sécuritaires et tous les autres défis qui restent. Donc, moi, je pense que il est le profil idéal.
L'homme idéal, l'homme de la situation, oui. Shérif. Vous restez en ligne, Oumar est avec nous également. Bonjour, Oumar.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Est-ce que vous partagez, l'espoir exprimé à l'instant par Shérif?
Je partage en partie l'espoir exprimé par Shérif en ce qui concerne la personnalité du président de la transition qui a été choisi. Son intégrité et sa probité ne font l'objet d'aucun doute. Ça, nous sommes unanimes là-dessus. Mmh. Par contre, pour la vice-présidente, j'aimerais et je souhaiterais que et les Maliens et la CEDEAO restent vigilants et restent exigeants. Que les prérogatives du président et du vice-président soient définies dans la charte. Que la charte corrigée, revue, que la CEDEAO demande lui soit rendue.
Oui, alors vous dites la charte corrigée, parce que selon la charte de transition qui a été présentée il y a maintenant une dizaine de jours, le vice-président aura la responsabilité de la défense, de la sécurité, de la refondation de l'État. On se demande si le vice-président finalement n'aura pas plus de pouvoir que le président.
Plus large que le président.
Bah oui, c'est ça.
Et c'est pas possible. C'est pas une transition. On peut pas nommer un président et un vice-président qui a des prérogatives supérieures au président. C'est pas possible. Donc que la junte redevienne raisonnable, que le vice-président s'occupe des questions de défense et de sécurité comme l'a demandé la CEDEAO, ça c'est de leur droit, ils sont militaires, ils peuvent s'occuper des questions de défense et de sécurité, mais en ce qui concerne la refondation, c'est de la politique, la refondation et autres, qu'on le laisse à la charge du président de la transition, qui doit être le seul responsable qui puisse engager le pays dans cette voie.
Shérif, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, je suis là.
Oui. Oumar a raison de polémiquer sur les prérogatives accordées au vice-président, ou c'est une fausse polémique selon vous ?
Je pense que cette question est déjà réglée parce que la CEDEAO était très claire. La CEDEAO a dit au CNSP que le poste de vice-président doit se limiter au quotient de sécurité militaire. Et moi, je pense que pour la refondation, en fait, une équipe transitoire n'a pas vocation à régler tous les problèmes d'un pays. Elle est là pour les défis majoritaires qui sont, sinon prioritaires, qui sont la sécurisation de ce pays et des élections libres et transparentes. Donc, pour ce qui est de la refondation, je pense qu'il faut laisser cette attribution au régime qui sera démocratiquement élu. Oui.
Donc au final,
c'est pas une polémique à faire.
Au final, Shérif et Oumar sont d'accord, vous êtes d'accord. On vous souhaite une bonne journée, un bon week-end à Bamako, et sachez que lundi, on reparlera du Mali, puisque vous pourrez commenter les discours d'investiture du président Bandao et de son vice-président, le colonel Assimi Goïta. On verra si d'ici lundi, un Premier ministre aura été nommé, certainement oui, évidemment, et ce sera l'occasion ensemble de décortiquer son profil, et puis on verra d'ici lundi si la CEDEAO aura ou pas levé les sanctions contre le Mali. La Libre Antenne, 339-693-693-70. Parlons maintenant de la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire. Et cet appel lancé il y a quelques jours par l'opposition, par les principaux partis de l'opposition, à la désobéissance civile pour empêcher la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat. Bonjour Arnaud.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Vous disiez au Standard que la stratégie de l'opposition est inopérante.
Oui, absolument. C'est une stratégie inopérante parce que cette démarche est tout de même incohérente. Comment vous pouvez prétendre à un mois d'élection estimer que la CEI, l'institution qui a reçu votre dossier, n'est pas en mesure d'organiser l'élection? On aurait dû ne pas aller déposer ces dossiers lorsqu'on ne fait pas confiance à cette institution. Mmh. Et donc, aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont pas dupes quand même, tout de même, sur Rouen. Les Ivoiriens sont assez battus. Et aujourd'hui, l'offre politique et l'opposition doivent présenter aux Ivoiriens, c'est de même dire qu'est-ce qu'elle prétend faire dans les cinq années à venir. Oui. Et non, jeter les enfants dans la rue. C'est irresponsable de leur part.
Vous pensez que si l'opposition fixe une date pour organiser une énorme manifestation, vous pensez qu'il y aura du monde dans la rue ?
Pas du tout. Pas du tout. Parce que les gens ont compris que, en fait, l'opposition, ce sont des intérêts individuels qu'ils défendent et non l'intérêt général. Nous avons compris. Tous ceux qui sont dans cette coalition aujourd'hui étaient tous membres du gouvernement, ont tous collaboré avec le régime en place. Ce n'est pas à 3 mois ou à 4 mois que lorsque vous perdez vos privilèges et avantages, vous allez dénigrer ce régime, prétendant que les conditions ne sont pas réunies, que les conditions ne sont pas saines. C'est irresponsable. Ouais. En réalité, l'opposition veut user de subterfuges pour gagner du temps. Elle a été prise dans son propre piège, ayant boycotté toutes les étapes essentielles du processus électoral. Aujourd'hui, avec l'opération du parrainage, elle se rend compte et réellement de son poids sur le terrain.
Oui. Et donc, mais en même temps, même ceux dont la candidature a été validée, même eux contestent l'organisation de cette élection. Afin Guessant, Henri Colombédier, par exemple, pour ne citer que ces deux-là.
Non, mais en réalité, M. Oran, M. Afin Guessant est à la recherche d'une légitimité au sein même de sa propre formation politique. Mmh. Et vous imaginez, lors de la première réunion, M. Afin Guessant n'y était pas. Et c'est après, 48 heures après, qu'on organise une séance de travail avec lui, au cours de laquelle il prétend qu'il va s'aligner. Mmh. En réalité, la M. Afin Guessant, comment dirais-je, ne voudrait pas avoir cette légitimité au sein de sa formation politique.
Bon, vous permettez, on donne la parole à d'autres auditeurs. Il y a beaucoup de monde sur la Côte d'Ivoire. Il y a Jean, il y a Blaise et d'autres. Jean, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jean.
Bonjour.
Bienvenue. Sur la stratégie de l'opposition, elle est bonne, disiez-vous au Standard?
Elle est bonne parce que aujourd'hui c'est tout ce qu'on a, comme je pouvais dire au Standard. Et moi, ça me choque aujourd'hui d'entendre que appeler aujourd'hui à la désobéissance civile ou à marcher est un souci, parce que le pouvoir en place l'a fait autrefois. pourquoi on le fait aujourd'hui, c'est tout un problème.
Alors que les manifestations sur la voie publique sont interdites, Jean, vous le savez.
Non, les manifestations de manière générale aujourd'hui sont interdites. Pourquoi ? On manifeste pour contester quelque chose. La manifestation de la Constitution n'est pas interdite. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui c'est interdit.
Non, le droit de manifester figure effectivement dans la Constitution, article 20, pour être précis. Jean, vous-même, vous seriez prêt à sortir demain s'il fallait manifester, descendre dans la rue?
Comme je le disais au standard, Dieu merci, je ne travaille pas pour quelqu'un, je travaille à mon propre compte. Donc demain, si on me dit on sort, je sortirai, comme je l'ai fait autrefois.
Et vous ne craignez pas des arrestations? Vous ne craignez pas des forces de l'ordre, puisque les manifestations sont interdites, que les forces de l'ordre interviennent?
Monsieur Roy, vous savez, il y en a encore, tu vois, et on est habitué à ça. Aujourd'hui, tu donnes juste un mot d'ordre pour marcher pacifiquement, tu es enfermé. Donc, on appelle à la négociation, on appelle à l'échange, ça bouge les lignes. Bah, c'est ce qu'on peut utiliser pour faire bouger les lignes. Bon. Je crois que c'est ce qu'on fera.
Bon, on verra ça. Merci infiniment, Jean, de nous avoir appelé. Merci également à Arnaud. Désolé pour les autres, hein, il y en avait d'autres prévus sur la Côte d'Ivoire. Mais on aura, c'est promis, l'occasion, dès la semaine prochaine, de revenir sur l'organisation et la tenue de cette élection présidentielle dans un mois, le 31 octobre. Bonjour Ibrahim.
Bonjour, Monsieur Gomez.
Vous êtes à Conakry, Ibrahim. Je ne sais pas si vous nous aviez envoyé un message via les réseaux sociaux ou si vous nous avez directement appelé. En tout cas, vous aviez hâte. Vous avez appelé. Vous aviez hâte de prendre la parole ce matin pour réagir à l'arrestation cette semaine de l'artiste malien Sidiki Diabaté. Alors, il est très très connu, évidemment. Il est accusé d'avoir frappé et séquestré son ancienne compagne. Et l'affaire a pris de l'ampleur après la diffusion sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, de photos, des photos, je les ai vues, qui font froid dans le dos. On y voit des cuisses, des hanches, le dos d'une femme tuméfiée, et cette femme n'est autre donc que son ancienne compagne, elle aussi connue, Mariam Sow, elle est guinéo-malienne, donc l'affaire fait du bruit au Mali, mais aussi dans votre pays, la Guinée. Elle affirme avoir été frappée à coups de poing, frappée même avec une rallonge électrique, à coups de ceinture, et vous disiez, mais heureusement que cette affaire éclate, Ibrahim.
Oui, il faut se réjouir que cette affaire éclate. Mais Rouen, ce que je voulais dire pour commencer, c'est que lorsque moi j'ai vu ces images sur les réseaux sociaux, parce que moi j'ai une sœur, j'ai une mère, et directement je me suis dit que ça aurait pu être ma sœur. Et donc pour moi, je n'en revenais même pas. Et il a fallu qu'elle passe sur une radio privée de la place pour confirmer qu'il s'agissait bel et bien d'elle, pour que moi je puisse croire à cela. Et donc c'était quand même quelque chose d'incroyable qu'on puisse affliger un tel traitement à un être humain. Et donc aujourd'hui il faut se réjouir de la solidarité qu'il y a eu autour de cette affaire, mm-hmm. et la mobilisation de la société civile du côté du Mali pour accompagner Mariam Sow, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Et donc il faut se réjouir de tout ça et donc espérer maintenant que la justice fasse son travail, que la lumière soit rendue sur cette affaire.
Ouais. Nos confrères du Monde Afrique ont contacté Sidiki Diabaté alors qu'il était avec son avocat. Sidiki Diabaté a déclaré « L'affaire est plus compliquée qu'il n'y paraît ». Fin de citation.
Oui.
En tout cas, on a vu des festivals se désolidariser de l'artiste.
Oui.
Le Prix international des musiques urbaines et découpé d'Abidjan, effectivement, ont décidé de retirer de leur festival et de leur prix la nomination de Sidiki Diabaté.
Oui. Ça, tout ceci est quelque chose d'appréciable, quelque chose qu'il faut apprécier énormément. Et parce que vous savez, parce que on pourrait se laisser faire, parce qu'il s'agit d'un artiste, d'une personne de renom, et donc se dire que voilà. Mais il faut se réjouir du fait que aujourd'hui il y a une certaine prise de conscience, voilà, et qu'on puisse apporter le soutien nécessaire à Mariam.
Bon, on suivra évidemment cette affaire. Merci de nous avoir interpellés sur ce sujet, Ibrahim. Bonne journée à Conakry. Je regarde la pendule, 5 minutes. J'ai le choix entre le Cameroun et l'opposition qui n'a pas réussi à mobiliser et les inondations. J'aimerais qu'on parle des inondations, si ça ne vous dérange pas. Pourquoi ? Parce qu'on en a beaucoup parlé il y a 3 semaines et depuis, beaucoup d'entre vous ont encore les pieds dans l'eau. Et il faudrait d'ailleurs qu'on revienne largement, longuement sur la situation dans tous ces pays qui ont été frappés fin août, début septembre, milieu septembre par des pluies diluviennes. Les dégâts sont considérables, le bilan humain a été particulièrement lourd. Abdou, bonjour.
Bonjour Juan.
Bonjour Abdou, vous êtes à Dakar et vous disiez au Standard que la situation est toujours très chaotique dans la capitale sénégalaise, dans la banlieue de Dakar.
Ah oui, la situation est vraiment chaotique, c'est un scénario catastrophe, hein, c'est l'apocalypse, c'est vraiment quelque chose d'effroyable. Il faut voir vraiment ces images, des milliers de maisons englouties par les eaux, des populations désemparées. C'est un scénario catastrophe. Vraiment là, c'est une situation terrible que les Dakarois sont en train de vivre dans certains quartiers.
Oui.
Et ce que moi je voulais dire, Juan, hein, cette situation est la conséquence d'une négligence, d'un zémofoutisme, d'un appât du gain de certaines élites locales, en complicité avec le gouvernement, qui ont laissé des communes donc faire des lotissements dans des zones où tout aménagement est impossible. Figurez-vous qu'on a fait des lotissements dans des quartiers où la nappe phréatique est à moins de 2 mètres.
Ah oui.
Et on a bâti comme ça des quartiers.
Mmh.
Et aujourd'hui, tout le monde fait semblant d'être surpris, c'est une catastrophe arrivée. Non, c'est une suite logique. C'est une suite logique. On ne peut pas. C'est des quartiers où tout aménagement est impossible, où des gens ont laissé faire. Et aujourd'hui, c'est pas encore fini, parce que chaque année, ça va se répéter, parce que c'est impossible de faire quelque aménagement possible dans ces zones-là.
Et pourtant, le gouvernement et le président Macky Sall ont débloqué une somme conséquente, 750 milliards de francs CFA, donc plus d'un milliard d'euros, à peu près, un milliard d'euros, depuis 2012, pour lutter contre les inondations.
Très bien. Juan, c'est l'occasion pour dire aux auditeurs, cet argent-là, et d'ailleurs le président a tapé du poing sur la table, cet argent-là n'est pas parti dans les... On n'a pas investi cet argent-là. Tout le monde sait au Sénégal ici que le jeu favori des politiciens, c'est la corruption. C'est les surfacturations, c'est des contrats fictifs, c'est vraiment... Aucun Sénégalais digne de nom ne peut jurer que cet argent-là a été investi.
Ouais, donc,
rien n'a été fait.
Donc vous êtes en colère.
C'est du bricolage qui a été fait et aujourd'hui on subit de plein fouet donc les conséquences de cette malgouvernance et de cette prévarication. C'est le mot, là. C'est la prévarication.
D'accord. Voilà. Abdou, merci infiniment. Je vous interromps parce que je voudrais accueillir, et vous pourrez l'écouter évidemment, Ali, lui aussi confronté aux inondations. Il est à Niamey, le Niger qui fait face aux plus importantes inondations de son histoire. Bonjour Ali.
Bonjour Juan. Vraiment, je me retrouve, oui.
Allez-y, profitez de l'antenne, allez-y, parlez-nous.
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut d'abord, ce par quoi il faut commencer, pour la première fois au Niger, dans le gouvernement, il y a un ministère chargé de l'action humanitaire et de la lutte contre les catastrophes naturelles. Et malheureusement, c'est cette année que nous avons eu des dégâts sans commune mesure. Et on a battu le record, tristement, vraiment macabre à travers le monde de par les inondations, les dégâts qui ont été faits. Ce qu'il faut déplorer, on a pratiquement vu tout le monde sur le site, tout le monde, l'action citoyenne, sauf la présence de ce ministre de la chargée des catastrophes naturelles.
Ouais. Enfin, le ministre en question, oui. Je n'ai pas suivi évidemment tous ses déplacements, mais il s'est rendu quand même sur le terrain. Il a, de mémoire, accusé les collectivités locales et une partie de la population d'être responsable parce que la population ne respecte pas les consignes de construction.
Mais pas seulement les consignes de construction, mais en 2012, quand il y avait eu les premières inondations, les gens ont été relogés. Il y a eu un site. Ils ont été pratiquement placés dans des endroits, mais l'État les a regardés par laxisme, ou on ne sait pas pourquoi. On les a regardés un à un, les gens ont regagné les sites.
Mmh.
Petit à petit, les gens sont venus et ils ont vu qu'ils n'ont pas été chassés. Et maintenant, tout le monde s'est encore rétabli. Et là, c'est ça la défense essentielle de l'État. C'est ça que les gens ont condamné.
Mmh.
Un État doit protéger tous les citoyens.
Évidemment.
On ne peut pas les regarder s'installer comme ça.
Mmh.
Parce que maintenant, ce qu'il faut craindre, maintenant, c'est le paludisme, c'est le choléra. Parce que là,